L'enchaînement des choses, chapitre 3. À peine étaient-ils arrivés que la présidente prétendit que Charles devait raconter quelque histoire. Le char répondit modestement qu'il était d'abord un très pauvre conteur, qu'est-ce qu'il aurait de mieux à narrer serait peut-être trop effroyable pour procurer à la société un grand plaisir. Mais alors, quatre toutes jeunes demoiselles s'écrièrent à l'unisson « Oh, de l'effroyable, de l'effrayant, du très effroyable! Oh, j'ai tant de plaisir à trembler de peur !» Le char se mit dans un fauteuil du conteur et commença ainsi. « Nous avons vu un temps qui, semblable à un ouragan terrible, vint dévaster la terre. Alors tout ce que peuvent le courage, la haine, la vengeance et le désespoir fut déployé dans la guerre que soutint l'Espagne pour sa liberté. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de mon aventureux ami que nous appellerons Edgar. Il avait combattu sous les étendards de Wellington. Edgar avait tout affligé des malheurs de sa patrie allemande, abandonné sa ville natale et s'était retiré à Hambourg, dans une petite chambre louée dans un quartier retiré, et il vivait là, solitaire. Il savait seulement du voisin, dont il était séparé que par un mur, que celui-ci était malade et vieux et ne sortait jamais. Il entendait souvent gémir et se plaindre dans quelques paroles dont on ne distinguait pas le sens. Plus tard, le voisin se promenait presque continuellement dans sa chambre et un signe de retour à la santé fut le son d'une guitare qu'il entendit accorder un jour en essayant ensuite une chansonnette qu'Edgar reconnut pour une romance espagnole. L'hôtesse, à sa demande, lui conta que le vieillard était un officier espagnol du corps de Romana, resté dans le pays pour cause de maladie, et qui n'osait pas sortir, car il était certainement épié en secret. Au milieu de la nuit, Edgar entendit l'Espagnol faire sonner la guitare plus fort que de coutume. Il commença, dans une puissante mélodie étrangement variée de changements de ton, la Profecía del Pirineo de Don Almanza, et chanta les strophes suivantes. Écoute, de grands rugissements résonnent comme le tonnerre dans les champs de la Castille. C'est le rugissement des fils de l'Asturie, c'est le cri de vengeance des habitants de ces villes. La foudre fait retentir Valence, tandis que la terre tremble avec bruit terrible à Mossaco. Vois jusqu'aux frontières le pays rouge des reflets de combat. Les tambours résonnent, le bronze retentit, les clairons éclatent et aussi les larmes anciennes. Voilés secouant la poussière pour le jour de la vengeance, le feu de l'enthousiasme qui jaillissait des chants du vieillard avait pénétré le cœur d'Edgar. Un nouveau monde s'ouvrait devant lui. Il savait maintenant comment il pourrait sortir de son état de langueur, comment il pourrait, enflammé par de nobles actions, utiliser l'ardeur guerrière qui dévorait son âme. « Oui, en Espagne !» s'écria-t-il à demi-voix. Mais au même instant, la guitare du vieillard cessa de retentir. Edgar ne put résister au désir de connaître celui qui avait renouvelé sa vie. La porte céda sous la pression de sa main. Mais au moment où il passait le seuil de la chambre, le vieillard s'élança de son lit sur Edgar, un poignard à la main, en s'écriant « Traidor, traître !» Celui-ci, par un habile mouvement, parvint à détourner le coup bien porté et à saisir le vieillard qu'il t'a renversé sur son lit. Et pendant qu'il tenait son adversaire sans force, il le conjura avec les expressions les plus touchantes de lui pardonner sa brusque manière d'entrer chez lui. « Oh, je ne suis pas un traître, lui dit-il, au contraire. Je prends part à vos douleurs, et votre chant a changé le chagrin qui dévorait mon âme en un ardent enthousiasme pour les combats. Je veux aller en Espagne et combattre avec joie pour la liberté du pays. » Le vieillard le regarda fixement et dit à voix basse, « Serait-ce possible ?» Et il se précipita avec violence dans les bras d'Edgar, en jetant loin de lui son poignard qu'il tenait encore à la main. Edgar apprit alors que le vieillard se nommait Baldassare de Luna et descendait de la plus haute noblesse d'Espagne, sans secours, sans amis, sans soutien, au milieu du plus profond dénuement. Il avait devant lui la triste perspective de traîner une vie misérable loin de son pays. Mais lorsque Edgar lui eut juré, sur tout ce qu'il avait de plus sacré, de faciliter sa fuite en Angleterre, alors un feu nouveau sembla ranimer tous les membres du vieillard. Oh, ce n'était plus l'homme maladif et chargé d'années, c'était un jeune homme enthousiaste qui méprisait la haine impuissante de ses oppresseurs. Edgar fut fidèle à ses promesses. Il réussit à tromper la vigilance des espions et à s'enfuir en Angleterre avec Baldassare de la Luna. Mais le sort n'accorda pas au pauvre vieillard, poursuivi par le malheur, la faveur de revoir son pays. Il tomba de nouveau malade et mourut entre les bras de son compagnon de voyage. Un esprit prophétique lui fit entrevoir la glorieuse délivrance de son pays. Dans les derniers soupirs de prière qui s'échappa péniblement de ses lèvres, Edgar discerna le mot « victoire ». Il arriva seul en Espagne, combattit à Tarragone, où il fut blessé et fait prisonnier, et délivré par des guérillas. Il se retira à Valence, et un jour il remarqua un vieillard d'une haute stature qui se promenait lentement çà et là, et ce vieillard s'arrêtait chaque fois un moment en passant devant lui et en le regardant attentivement dans les yeux. Edgar s'avança vers lui et lui demanda poliment ce qui pouvait exciter ainsi son attention. « Je ne me suis donc pas trompé, » dit le vieillard, tandis qu'un feu sombre s'échappait de dessous ses épais sourcils. « Vous n'êtes pas espagnol. Cependant, si votre costume ne ment pas, vous combattez avec nous. Cela m'étonne beaucoup. » Edgar, un peu blessé, lui raconta toutefois avec assez de sang-froid les événements qu'il avait appelés en Espagne. Mais à peine avait-il prononcé le nom de Baldassare de Luna que le vieillard s'écria plein d'enthousiasme. « Que dites-vous, Baldassare de Luna, mon digne cousin, le seul ami qui me restait au monde ?» Edgar lui répéta tout ce qui était arrivé. N'oublia pas de lui dire avec quelle espérance céleste Baldassare de Luna avait quitté la vie. Le vieillard joignit ses mains et leva vers le ciel ses yeux remplis de larmes. Ses lèvres tremblèrent et il paraissait parler à son ami mort. « Pardonnez-moi, dit-il à Edgar, si un soupçon injuste m'a conduit à tenir envers vous un langage qui n'est pas dans mes habitudes. On prétendait, il y a peu de temps, que la muse maudite de nos ennemis allait jusqu'à introduire dans les rangs de notre armée des officiers étrangers pour la trahir. Don Joachim Bleck a cependant déclaré qu'il était absolument besoin d'ingénieurs étrangers, mais en s'engageant à faire fusiller publiquement et à l'instant même tout comme non espagnol sur lequel planterait le plus léger soupçon. Mais si vous êtes réellement un ami de mon ami Valbassare, vous ne pouvez avoir que de nobles et honnêtes intentions. Je vous ai tout dit. Faites-y attention maintenant. » Et le vieillard s'éloigna.
Valence fut étroitement bloquée. Edgar fut blessé en faisant une sortie et perdit connaissance. Quand il se réveilla, il était dans un lieu étrange. Le lit moelleux et orné de riches tentures de soie ne se trouvait nullement en rapport avec la petite chambre basse, voûtée comme une prison et garnie de pierres rouges où il était dressé. Edgar se souleva péniblement. Il aperçut un franciscain assis sur une chaise dans un coin de la chambre. Il paraissait dormir. « Mais où suis-je ? » s'écria-t-il en donnant à sa voix toute la force qu'il put rassembler. Le moine se réveilla en sursaut, attisa la mèche de la lampe, la prit et la dirigea la clarté sur le visage d'Edouard. Edgar tâta son pouls et murmura quelques paroles que le malade n'entendit pas. Edgar était sur le point d'interroger le moine sur tout ce qui lui était arrivé, lorsque le mur parut s'ouvrir tout à coup, sans bruit, et un homme entra. Edgar le reconnut à l'instant même pour le vieillard qui avait parlé peu de jours auparavant. Et le moine appria celui-ci que la crise était passée. « Tout va bien maintenant, » dit-il. « Oh, Dieu soit loué, » répondit le vieillard. Et il s'approcha du lit d'Edgar. Edgar voulut parler, mais le vieillard le pria de garder le silence, parce que le moindre effort pourrait maintenant lui être fatal. On va penser combien il lui semblait inexplicable de se trouver dans de pareilles circonstances. Mais peu de mots suffirent non seulement pour le tranquilliser complètement, mais aussi pour le convaincre de la nécessité de rester couché dans cette triste prison. Lorsqu'il eut été renversé, atteint d'une balle dans la poitrine, ses intrépides frères d'armes le relevèrent malgré la violence du feu et le portèrent dans la ville. Rafael Martinez, c'était le nom du vieillard, prit soin du blessé et au lieu de le faire porter à l'hôpital, le fit transporter dans sa maison pour donner tous les soins possibles à l'ami de Valdassare. Et lorsque la ville fut prise, Don Rafael Martinez ne voulut pas qu'Edgar, mortellement malade, tombât dans les mains des ennemis. Et aussitôt que la capitulation eut été signée, et que l'ennemi fut entré dans les murs de Valence, il fit transporter son hôte dans la chambre voûtée, éloignée, inaccessible aux recherches d'un étranger. « L'ami de mon Valdassare, » ajouta Don Raphaël en terminant son récit, « devint aussi le mien, et le sang de l'un et de l'autre a coulé pour la patrie. L'ardeur que les Espagnols portent dans la haine, ils le portent aussi dans l'amitié. Et ils sont capables de tous les sacrifices pour ceux qui les ont adoptés pour amis. Les ennemis sont logés dans ma maison. Mais vous êtes ici en sûreté. Et je vous jure, s'il arrive quelque malheur, de ne laisser plus écraser sous les ruines de Valence que de vous trahir. Allez, croyez-le bien. » Pendant le jour, un silence de mort régnait autour de la chambre cachée d'Edgar. La nuit, au contraire, il semblait entendre dans le lointain l'écho de pas légers, le sourd murmure de plusieurs voix, un bruit d'armes, de portes qui s'ouvraient et se fermaient, un mouvement souterrain semblait s'avérer et s'éveiller aux heures du sommeil. Il consulta à ce sujet les franciscains qui quittaient rarement et le soignaient avec un zèle infatigable. Oh, celui-ci lui répondit qu'on s'était informé par Don Raphaël lui-même, mais qu'il fallait pour cela que la guérison fût complète. Et en effet, aussitôt qu'Edgar eut repris assez de force pour pouvoir se lever de son lit, Raphaël vint une nuit, tenant une torche à la main, et invita Edgar à s'habiller et à le suivre, ainsi que le père Eusebio. C'était le nom du franciscain qui lui servait à la fois de médecin et de surveillant. Don Raphaël le conduisit à travers un assez long corridor jusqu'à une porte fermée. Don Raphaël l'ouvrit, et quel ne fut pas l'étonnement d'Edgar en se trouvant dans une vaste salle bien éclairée au milieu d'une nombreuse société composée en grande partie de gens d'un aspect assez repoussant et sauvage. Il était au milieu de conspirateurs présidés par le fameux Epeclinado. Epeclinado tenait la main à Edgar et lui parla dans les termes remplis d'enthousiasme. Et puis le père Eusebio ramena Edgar dans sa cellule. Quelques semaines après, Raphaël crut pouvoir laisser sortir son ami sans danger du caveau dans lequel il ne pouvait guérir. Il le conduisit pendant la nuit dans une chambre solitaire dont les fenêtres donnaient sur une rue assez déserte et l'avertit de ne pas sortir, au moins pendant le jour, à cause des Français qui demeuraient dans la maison. Edgar, par un désir qu'il ne put comprendre, sortit un jour pour se promener dans le corridor. À l'instant où il ouvrait sa porte, celle de la chambre en face s'ouvrit aussi, et un officier français se trouva devant lui. « Cher Edgar, quel heureux événement vous conduit ici ! Oh, soyez mille fois le bienvenu !» s'écria le français, qui l'embrassa tout joyeux. Edgar reconnut aussitôt le colonel Lacombe, de la garde impériale. Le hasard avait justement conduit cet officier dans la maison de l'oncle d'Edgar, au moment où celui-ci, à la suite de l'abaissement de la patrie allemande, s'était retiré dans la maison de son parent, après avoir été contraint de déposer les armes. Lacombe était né dans le Midi. Par sa franche bienveillance, par une discrétion assez peu naturelle à sa situation, nation, et qui lui dictait les plus grands égards pour ménager les susceptibilités des offensés, il parvint à surmonter l'aversion et même la haine implacable enracinée dans le cœur d'Edgar contre un orgueilleux ennemi. Lacombe parvint même, par quelques traits qui témoignaient sans aucun doute d'une noble nature, à gagner son amitié. Cet officier voulut absolument qu'il vînt partager sa chambre. Edgar accepta pour éloigner les soupçons et devint suspect aux conspirateurs espagnols. Il entendit un jour, derrière lui, à demi-voix, « Aquí está el traidor ? Ah, voici le traître !» Don Raphaël devint de plus en plus froid et avare de ses paroles avec Edgar. Il finit par ne plus le voir et lui fit dire qu'il pouvait, à partir de cet instant, dîner avec le colonel Lacombe et cesser de manger avec lui comme il l'avait fait précédemment. Un jour que le colonel était absent pour son service, et qu'Edgar se trouvait seul, on frappa doucement à la porte de sa chambre, et le père Eusebio entra. Il avertit qu'il était soupçonné et lui conseilla de quitter Valence. Il partit, trouva au dehors les premières lignes de guérilla et se joignit à eux. Quelques jours après, le vieux Rafael Marchez s'échappa de Valence et vint aussi rejoindre les guérillas. Il attendait de la ville des muets et mulets chargés d'or. Il était minuit, la lune brillait claire dans la montagne, lorsqu'on entendit des détonations d'armes à feu parties d'un ravin. Et bientôt après, un guerriero blessé et se traînant à peine apparut. Il avança, il annonça que la troupe qui conduisait les mulets de Don Rafael avait été attaquée à l'improviste par des chasseurs français. Presque tous ses camarades avaient été tués et les mulets étaient tombés de pouvoir les heures saillants. « Grand Dieu, mon enfant, ma pauvre enfant !» s'écria Raphaël, et il tomba sur la terre sans connaissance. « Mais que faut-il faire ?» s'écria Edgar. « Allons, frère, descendons dans un ravin pour venger ce brave et reconquérir le butin. »« Le brave Allemand a raison !» s'écrièrent-ils tous. Il appela son monde, et l'on se précipita dans le ravin, comme un vent d'orage. Quelques guerrilleros détournaient encore, défendaient encore. Edgar se précipita au plus fort de la mêlée en criant « Valencia !» Et les guerrilleros le suivirent comme des tigres altérés de sang, employant tour à tour le poignard et l'espagnol, l'espingole. De l'autre côté, des coups de fusil retentirent. Les Valenciens, que les ennemis avaient armés de leur marche, se jetèrent sur eux, le poignard en main, avant qu'ils fussent en défiance, et se saisirent de leurs armes et de leurs chevaux. Lorsque l'affaire fut terminée, Edgar entendit retentir un cri perçant venant d'un épais taillis. Il y courut aussitôt, et il y vit un petit homme qui tenait entre ses dents la bride de son mulet et combattait avec un chasseur. Au même instant, le petit homme tomba, et le vainqueur voulut emmener l'animal plus loin dans le four. Et lorsque Edgar poussa un grand cri. Le soldat se retourna et fit feu. Mais il manqua Edgar, qui le perça de sa baïonnette. Le petit homme poussait des gémissements. Edgar alla à lui hâta des dents la bride qu'il serrait convulsivement, et en voulant le placer sur le mulet, il s'aperçut qu'il s'y trouvait une espèce de figure enveloppée qui se tenait courbée sur le cou de l'animal, qu'elle embrassait en pleurant tout bas. La voix était celle d'une jeune fille. Edgar plaça l'homme blessé derrière elle, prit la bride du mulet et le conduisit sur les hauteurs, où le chef des guérillas, après avoir perdu les traces de l'ennemi, se trouvait déjà entouré de ses compagnons. On descendit de cheval le petit homme, qui était tombé sans connaissance par la perte de son sang, car la blessure n'était pas mortelle, et puis on descendit aussi la jeune fille. Mais au même instant, Raphaël, tout hors de lui, s'élança en criant « Mon enfant, ma chère enfant !» Il voulait prendre dans ses bras la jeune fille, qui paraissait âgé de 8 à 10 ans. Mais aussitôt qu'il reconnut le visage d'Edgar à la lueur des torches, il se précipita à ses pieds. Don Edgar, lui dit-il, j'ai jamais fléchi le genou devant un mortel. Mais vous n'êtes pas un homme, vous êtes un ange de lumière, envoyé pour me préserver de chagrin mortel et d'incurable désespoir. Un soupçon injuste s'était emparé de mon esprit, porté au mal, et j'ai conçu l'affreuse idée de vous livrer à la mort, vous le plus noble des hommes, vous un modèle de fidélité et de courage. Tuez-moi, Edgar, tuez-moi, me sanglant de vengeance, car jamais vous ne me pardonnerez ce que j'ai fait. Edgar, dans sa profonde conviction de n'avoir fait que ce que lui ordonnait rigoureusement son devoir et l'honneur, se sentit vivement peiné de cette manière d'agir de Don Raphaël. Il chercha à le calmer par tous les moyens possibles, mais sans pouvoir y parvenir. Raphaël raconta que le colonel Lacombe, exaspéré de la disparition d'Edgar et soupçonnant un crime, fit visiter toute la maison et ordonna d'emprisonner Don Raphaël. Celui-ci fut contraint de s'enfuir et, grâce à l'activité officieuse du franciscain, sa fille et son domestique avaient pu sortir de Valence, emportant avec eux les choses de première nécessité. Et pendant ce récit, on avait envoyé en avant la fille de Raphaël et son serviteur blessé. Raphaël, trop âgé pour prendre part au coup de main interdit des guerrieros, devait les suivre. Et en faisant à Edgar un mélancolique adieu, Il lui mit dans les mains une bague, talisman, qui devait le protéger contre tous les dangers. Ainsi se termina le récit d'Edgar d'Eustache, qui semblait avoir intéressé à la société tout entière. « Cette histoire espagnole, dit un poète, offre l'étoffe de plusieurs excellentes tragédies. Il n'y manque seulement qu'un peu d'amour. » Et pour dénouement, un beau meurtre, un peu de folie ou quelque chose de pareil. « Oh oui, de l'amour !» dit une jeune fille en rougissant très fort. « Une histoire d'amour manque à votre charmant récit, mon cher baron. » « Aussi, mademoiselle, répondit Urchard, n'ai-je pas voulu raconter un roman ?» Mais tout simplement les aventures de mon ami Edgar, qui, par malheur, n'a rien trouvé dans les montagnes sauvages de l'Espagne qui fut semblable à ce que vous désirez. « Pour moi, murmura Victorine à demi-voix, je crois connaître cet Edgar. Je sais qu'il est resté pauvre, parce qu'il fut dédaigné, qu'il a dédaigné des occasions de s'enrichir. Mais l'enthousiasme de Ludovic était au comble. Il s'écriait de toutes ses forces. « Mais oui, je la connais, cette mystérieuse profetia de los mintos du divin Don Juan Batista de Langa. Oh, elle m'enflamma le cœur. Et je voulais partir pour l'Espagne. Je voulais me jeter au milieu des plus terribles combats. » Si l'enchaînement des choses lui permit. Et si je m'étais trouvé à la place d'Edgar à l'instant du fait, passé dans les caves des franciscains, voici ce que j'aurais dit au terrible empecinado. Et en entonnant une tirade pathétique, il stupéfia toute la société. Il ne pouvait assez admirer son courage héroïque et sa résolution. « Oui, interrompit la présidente, mais malheureusement, L'enchaînement des choses ne l'a pas permis. Toutefois, ce qui est tout à fait de circonstance et qui se présente ici par l'enchaînement des choses, c'est le divertissement que j'ai préparé à mes chers hôtes et qui donne au récit de notre Edgar un dénouement aussi agréable que caractéristique. Et au même instant, les portes s'ouvrirent et Manuela entra, suivie du petit Bacio Cubas, qui, la guitare dans les mains, fit un salut étrange à la ronde. Manuela, avec cette grâce indescriptible qui avait déjà étonné dans le parc nos amis Euchard et Ludovic, s'inclina devant tout le monde et dit avec une voix du timbre le plus doux qu'elle était venue pour donner à la société une idée de son talent, qui pourrait peut-être plaire par son étrangeté. La jeune fille paraissait, depuis le peu de temps que nos amis ne l'avaient vue, plus grande et plus belle. Sa taille semblait avoir dans ses formes une perfection plus complète. Elle était aussi plus élégamment, presque richement habillée. « Maintenant, » murmura Ludovic à l'oreille du char, pendant que Cubas faisait avec mille gestes comiques les dispositions pour le fandango, « dans ton feu. « Maintenant, » murmura Ludovic à l'oreille de Char, pendant que Cubas faisait, avec mille gestes comiques, les dispositions pour le fandango danser entre neuf œufs, « maintenant tu peux lui demander ton anneau. »« Niais que tu es, » répondit celui-ci, « mais ne le vois-tu pas à mon petit doigt ?»« Je l'avais laissé dans mon gant en le retirant, et j'ai retrouvé le soir même. » Mais la danse de Manuela captiva toute son attention. Jamais on n'avait vu rien de pareil. Et pendant qu'Edgar se cherche, un peu tourné, attaché sur la danseuse un profond regard, Ludovic se laissait aller à l'élan de son enthousiasme, en l'exprimant par de bruyantes exclamations. Alors Victorine, placé près de lui, lui dit tout bas, « Hypocrite, vous osez me parler d'amour, et vous vous amourachez de cette petite drôlesse, une danseuse de corde espagnole. Ah, ne vous ardez plus à la garder plus longtemps. » Oh, Ludovic ne fut pas peu embarrassé de cet immense amour de Victorine pour lui, mais cet amour lui inspirait une jalousie si déraisonnable. Mais je suis très heureux, se dit-il à lui-même. Mais c'est gênant. Et aussitôt que la danse fut terminée, Manuela prit sa guitare et commença à chanter des romances espagnoles très gaies. Ludovic lui demanda de chanter de nouveau ce bel hymne qu'elle lui avait fait entendre, et Manuela commença aussitôt. L'ore immortal, la grande parfox, etc. Et son enthousiasme allait croissant, sa voix résonnait de plus en plus, les accords retentissaient avec une force toujours plus grande. Enfin vint la strophe qui annonce la délivrance de la patrie. Alors son regard s'attacha brillant sur Richard. Elle versa un torrent de larmes et tomba sur un genou. La présidente courut aussitôt vers elle et la releva en disant « Restons-en là, ma charmante enfant. » Puis elle la conduisit sur son sofa, l'embrassa sur le front et lui caressa les joues. « Mais elle est folle !» dit Victorine à l'oreille de Ludovic. « Tu n'aimes pas une folle, dis-moi, à l'instant même que tu ne peux pas aimer une folle !» « Oh, mon Dieu, non !» répondit Ludovic, tout effrayé, sans pouvoir se rendre compte de cette explosion du violent amour de Victorine. Et tandis que la présidente forçait Manuela à prendre du vin doux et des boisses-biscuits, le brave guitariste Bianco Cubas, qui s'était agenouillé en pleurant dans un coin de la chambre, fut aussitôt gratifié d'un verre de vin de Jerez qu'il vida jusqu'à la dernière goutte en criant d'une voix joyeuse « Doña, viva usted, mil años !» On peut se figurer que les femmes se précipitèrent à l'envi autour de Manuela pour l'accabler de questions sur sa patrie, sa famille, etc. Mais la présidente comprit trop la position pénible de la jeune fille pour ne pas chercher à la délivrer, et pour cela, elle sut faire tourner tout ce cercle immobile de telle sorte que tout le monde y fut entraîné, même les joueurs de piquet. Et pendant tout ceci, Manuela avait disparu avec son Cubas. Et au moment où la société se séparait, la présidente dit « Mon cher chat, je parierai que vous savez encore bien des choses intéressantes sur le comte Edgar. Votre récit n'était qu'un fragment d'une histoire qui nous a si vivement préoccupés que nous ne pouvons en dormir. Je vous donne seulement jusqu'à demain soir pour vous recueillir. Il nous faut en savoir plus long sur Don Rafael Empecinado et les guérillas. Il est possible qu'Edgar devienne amoureux. Ne nous le cachez pas, je vous prie. Oui, cela serait charmant, s'écriait-on de tous côtés. Et Edgar fut forcé de promettre de revenir le lendemain, armé de tout le matériel nécessaire pour terminer son histoire. Ludovic, en s'en retournant avec lui, ne cessait de lui parler de l'amour de Victorine, poussé jusqu'à la folie. Mais, ajouta-t-il, sa jalousie m'a fait lire en mon âme, et j'ai vu que j'aime éperdument Manuela. Oh, je veux aller la voir et déclarer mon amour, la presser sur mon cœur. « Mais fais-le donc !» lui répondit froidement Euchard. Lorsque la société se trouva de nouveau réunie le lendemain soir chez la présidente, celle-ci annonça avec regret que le baron Euchard lui avait écrit qu'un événement inattendu l'avait contraint de partir subitement, ce qui le forçait à remettre à son retour le reste de son récit.